Je vous présente notre conférencier d'aujourd'hui. Il s'agit de M. Habib Ouane, qui est né en 1950 à Dakar. Sa formation, c'est docteur en sciences économiques de l'Université de Paris, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et licencié ès lettres. Sa carrière est celle d'un économiste et d'un diplomate international. En 1977, il a été chargé de programme au Centre de développement de l'OCDE, puis économiste à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, Mali, Mauritanie, Sénégal, 1978. Il a été, à partir de 1979, conseiller du secrétariat général du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, chargé de la négociation du volet commercial de la Convention de Lomé. Et puis, il a ensuite intégré, à partir des années 80, la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, où il a successivement travaillé dans les départements du commerce, des matières premières et de la technologie. Il est actuellement, il dirige le cabinet du secrétaire général de cette CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, à Genève. Ses publications sont... il est membre du comité éditorial de la revue Afrique 2000. Il est l'auteur de La Perestroïka et l'économie africaine, Afrique 2000, et la documentation française, L'Afrique dans la cité globale à l'aube du troisième millénaire, La cohérence des politiques dans les relations Nord-Sud, et par exemple un article comme Repenser Bretton Woods à partir de l'Afrique, etc. Il est particulièrement compétent pour nous parler de la régulation et du rôle des États du point de vue d'un économiste originaire d'Afrique et qui travaille dans les organisations internationales préoccupé de régulation et du commerce et de l'économie. Voilà, je vous remercie.
Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est pour moi un réel plaisir de participer à ce cycle de conférences. Et le thème qui m'a été attribué est un thème qui, comme vous le constaterez, comporte à la fois une dimension nationale et une dimension, je dirais, internationale, voire même globale. Et c'est pour cette raison que je l'aborderai sous deux angles. Je le situerai d'abord dans le contexte général du principal problème auquel les décideurs sont confrontés aujourd'hui, du moins à l'échelle internationale. Il s'agit de celui de la mondialisation et de ses effets sur les économies nationales, sur l'homme, sur les sociétés. Et je l'aborderai sous deux angles. Premièrement, l'État-nation et les défis de la mondialisation. Je crois que cette approche permettra de voir à quel point l'État, dans son rôle régulateur, est confronté à des défis que je considère de nature systémique. Le deuxième aspect qui va retenir mon attention porte sur la dimension internationale de l'enjeu régulateur. Quelle régulation planétaire pour le troisième millénaire? Et je terminerai par quelques réflexions sur ce que je considère comme un des grands impératifs de ce troisième millénaire qui commence. Il s'agit notamment du devoir de solidarité. Martin Luther King affirmait que toute injustice, où qu'elle soit commise, représente une menace pour la justice partout dans le monde. Je crois que ces paroles révèlent en fait une vision, je dirais, prémonitoire du dictat de l'interdépendance et elles vont, je pense, servir de toile de fond à nos discussions d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui témoins d'un processus de globalisation qui, tout en étant facteur de croissance sans précédent, engendre en même temps une série de déséquilibres, accentue les inégalités et attise un sentiment d'insécurité susceptible de compromettre la viabilité même de ce processus. Rien d'étonnant que dans ces circonstances, l'État soit appelé, ou en tout cas à nouveau interpellé, que le besoin se fasse sentir chaque jour plus clairement pour une mise à jour du rôle régulateur qu'il doit jouer au début du troisième millénaire. Ce rôle régulateur est d'autant plus pertinent que nous sommes confrontés à deux types de défis. Ceux qui ont émaillé la fin du XXe siècle, notamment le chômage, la pauvreté, la dégradation de l'environnement, mais aussi ceux qui vont marquer le début du troisième millénaire, tels que la sécurité alimentaire, les inégalités, le développement maîtrisé de la science et des nouvelles technologies, notamment de la biotechnologie, ainsi que les risques liés à la multiplication des actes de criminalité économique et financière. La complexité de la démarche régulatrice de l'État est aussi imputable au passage d'un monde international à un monde global. Ce dernier se prétend bien entendu de moins en moins à une action régulatrice de type classique fondée sur les attributs de l'État-nation. L'État-nation et les défis de la mondialisation. Je crois que nous pouvons faire un pari audacieux, c'est celui d'un partenariat fructueux entre l'État et le marché. Nul ne saurait contester le fait que durant la décennie qui vient de s'écouler, au moment où le couple libéralisation-mondialisation parvenait à étendre son emprise, l'État a été obligé de se replier. En d'autres mots, il s'est rapidement désengagé du domaine économique, submergé qu'il était par les évolutions technologiques, politiques et financières qui le poussaient dans cette voie. Qui eût osé rappeler l'importance du rôle de l'État dans une période où la chute du mur de Berlin et avec elle l'échec de la planification centralisée contrastait avec la vitalité sans borne des mutations technologiques et avec la prospérité matérielle que l'on observait alors dans les économies acquises aux idées libérales. Cette désaffection à l'égard de l'État dans le XXe siècle finissant ne devrait pas nous faire oublier que la conception de l'État, le rôle qui lui appartient de jouer dans le domaine économique n'a cessé d'évoluer tout au long des derniers siècles. D'un État mercantiliste fort au XVIIe et XVIIIe siècle, nous sommes passés au libéralisme proposé par Cournot, Adam Smith et David Ricardo, ce qui permettra la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle. Avec la Grande Dépression, au début du XXe siècle, nous avons assisté à un nouveau recentrage du rôle de l'État. Et c'est par le biais des dépenses publiques, inspiré par les recettes keynésiennes notamment, que l'État va s'engager activement dans l'économie, donnant de ce fait même naissance à l'État-providence qui, prête à s'épanouir, a fait ses preuves durant plusieurs décennies. La mondialisation, du fait des problèmes qu'elle engendre, suscite de rechef une demande en faveur d'un rôle renforcé de l'État. Sommes-nous à l'aube d'un nouveau retour de balancier par lequel l'État viendrait encore une fois prendre la place qui lui revient au marché, qui revient du moins au marché? Je ne le pense pas. Peut-être ai-je la naïveté de l'optimiste. Mais j'ai la ferme conviction que les conditions sont de nos jours réunies pour réactualiser la complémentarité de ces deux grandes forces qui façonnent l'activité économique contemporaine. Je crois que l'on s'achemine vers une synthèse créatrice à travers laquelle l'économie et la société pourront tirer profit d'un partenariat solide entre ces deux grandes forces que sont l'État et le marché. Je procéderai à un bref survol des défis de la mondialisation vu sous l'angle du rôle régulateur éventuel de l'État. Une des premières tâches qui nous incombe à cet égard consiste à évaluer ce à quoi l'État doit s'atteler pour donner à la mondialisation un sens plus humain. Il ne s'agit pas de remettre en question les indéniables avantages qu'un pays peut tirer de son intégration dans l'économie mondiale. Une des conséquences de l'échec des régimes communistes de l'Europe de l'Est fut en effet la disparition virtuelle de la croyance selon laquelle la rupture des liens commerciaux et financiers avec le reste du monde pouvait engendrer un véritable développement. Mais encore faut-il que cette mondialisation profite à tous, à tous les pays, ce qui est loin d'être le cas. Pour certains, elle est synonyme de déséquilibre et d'injustice inacceptable. L'Afrique, notamment, risque d'être le plus grand perdant. Avons-nous le droit de rester indifférent à son sort? Ce continent doit-il être livré à son sort avec sa part de marché mondial des biens et services en déclin depuis plus de 20 ans? Fermez les yeux devant ce grand désespoir silencieux de millions d'hommes afin de laisser agir les forces du marché ne peut être tolérable et pourrait sonner le glas de ce processus de mondialisation. Dans un domaine différent, la mondialisation a généré un autre problème inquiétant qui est la volatilité accrue des marchés financiers. Nous avons assisté aux conséquences négatives de cette volatilité au Mexique, en Asie du Sud-Est, en Russie, en Amérique latine, et cela a entraîné une déstabilisation de l'économie mondiale. Ces crises qui ont dramatiquement fondé, ébranlé les fondements même de l'économie mondiale ont en fait été les premières crises systémiques de la mondialisation. L'interdépendance désormais durable et inévitable peut parfois se révéler fort dangereuse du fait de son ambivalence, notamment sa fonction de puissant vecteur dans la transmission des manifestations des crises financières. Une grande partie des problèmes de la mondialisation tient aussi au déséquilibre qui s'est instauré dans la libéralisation des échanges. La 10e session de la CNUSED qui a eu lieu en Thaïlande en février dernier a notamment dénoncé l'asymétrie qui existe entre d'une part les progrès enregistrés dans l'élimination des entraves aux exportations des pays riches et d'autre part la persistance, voire la recrudescence des obstacles auxquels se heurtent les produits des pays en développement, notamment pour les textiles et les produits agricoles. Le professeur Harold James de Princeton a écrit en décembre 1999, dans l'une des publications du FMI notamment, que les progrès enregistrés en matière de libéralisation commerciale ont été facilités par le choix délibéré d'en exclure l'agriculture, les textiles et l'habillement, deux grands secteurs pourtant essentiels pour les pays en développement. Jusqu'à quand va-t-on maintenir cet état de choses qui a pour effet d'inhiber le potentiel de participation des pays les moins nantis au bénéfice de l'expansion mondiale? La durabilité même du système commercial multilatéral de l'OMC est au demeurant fonction du traitement sérieux que l'on va accorder à ces déséquilibres. Un dernier problème concernant la mondialisation et non des moindres est inhérent à ce sentiment d'anxiété et d'angoisse qui a envahi une bonne partie des populations. Beaucoup doutant des bienfaits de la mondialisation et la société civile essaie de plus en plus de faire entendre ce sentiment d'angoisse dans les instances internationales. En fait, la révolution technologique, notamment l'outil par essence ambivalent que représente Internet, dans les moyens d'information et de communication, a créé une opinion publique planétaire qui transcende les frontières nationales et qui ne compte pas rester les bras croisés à l'égard des dérives de la mondialisation. Vous vous souviendrez bien entendu de quelques exemples éloquents de cet état de choses, l'échec de l'AMI, l'accord multilatéral sur l'investissement, les manifestations de Seattle et les dernières qui ont eu lieu à Washington à l'occasion des conférences annuelles des institutions de Bretton Woods. La conclusion que l'on peut tirer de cette réflexion consiste à dire que les défis de la mondialisation nous interpellent tous, mais encore plus l'institution régulatrice que représente l'État, qui est non seulement le symbole de l'intérêt collectif, mais aussi le garant de la stabilité à long terme. La réactualisation du rôle de l'État devient donc un problème majeur. Les échecs collectifs qui ont émaillé cette fin de siècle incitent bien à admettre que la politique du laisser-faire tous azimuts a vécu. Il est désormais aisé d'envisager la nécessité d'un nouveau système économique international capable de corriger les dérapages du marché. Dans ce nouveau système, l'État doit retrouver un rôle de premier plan. Rôle nouveau, adapté aux impératifs économiques et sociaux du troisième millénaire, un rôle qu'il est urgent de définir pour assurer une meilleure gestion des risques collectifs auxquels nous sommes confrontés. Le discours économique de la dernière décennie a été dominé par ce que l'on a appelé le consensus de Washington. Il s'agit d'une douzaine de règles inspirées du principe du néolibéralisme que toute personne bien pensante se devait d'adopter pour être dans l'air du temps. Très vite, ces règles apparaissent trop contraignantes et trop simplistes. La Banque mondiale elle-même, en la personne de son vice-président de l'époque, le professeur Joseph Stiglitz, a appelé à dépasser justement ce consensus de Washington. Plus récemment, M. Gordon Brown, ministre des Finances de Grande-Bretagne, a souligné dans un discours prononcé à l'Oxfam qu'il est nécessaire d'aller au-delà de ce consensus de Washington, reflet des années 80, qui eut pour conséquence de réduire nos objectifs de croissance et d'emploi. Il en conclut que nous devons trouver un nouveau paradigme pour l'an 2000. Il s'agit donc de nous interroger collectivement sur ce qui a réussi et échoué dans ce paradigme du consensus de Washington, caractérisé par la prééminence sans conteste des forces du marché, avec un accent particulier sur l'augmentation du capital, l'accroissement de la productivité et l'importance accordée au commerce et à l'investissement privé par rapport à l'aide. Dans le domaine des relations Nord-Sud, ce paradigme a accordé plus d'importance au commerce et à l'investissement qu'à l'aide publique comme moyen de promouvoir le décollage du tiers-monde. À cet égard, il n'est guère étonnant de constater que l'aide publique au développement, pendant les 10 dernières années, a baissé d'environ 40%. Dans une étude publiée par la CNUSED, Paul Mosley a tenté de déterminer l'impact des éléments de ce consensus de Washington sur la croissance des pays en développement. Il s'est notamment appesanti sur trois options conseillées par le FMI. L'ouverture du marché, la stabilité macroéconomique et le moins d'État. Il est parvenu à la conclusion que si les deux premiers points pouvaient dans certains cas s'avérer importants, par contre, une réduction de la taille de l'État n'avait pas d'incidence positive sur la croissance. Réduire la taille de l'État ne ferait donc pas croître l'économie plus rapidement. L'expérience récente de l'Afrique a révélé que cela peut au contraire nuire au rôle redistributif que l'État doit assumer au travers des dépenses publiques, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. Bien entendu, il n'est pas question de prendre parti en faveur d'un État omnipotent. Celui-ci a fait son temps. Ce dont il s'agit, c'est de reconnaître qu'il est économiquement dangereux et moralement inacceptable de consentir à la détérioration des conditions sociales au nom de l'idéologie du tout marché. Au sein de chaque pays, l'État se voit donc confronté à des situations qui, sans son intervention, peuvent entraîner des crises sévères. Toute société en mouvement doit avoir une direction. Elle doit donner un sens à la politique et à l'économie, et ce sentiment de voie à suivre ne peut venir que de l'élimination de la pauvreté et de la réduction des inégalités. Chaque citoyen doit pouvoir bénéficier des bienfaits de l'expansion économique et de la mondialisation. Et l'État doit intervenir pour assurer une plus juste répartition des revenus et contribuer à donner ou redonner ainsi à chacun sa dignité d'homme. Il en va de l'intérêt de tous, car les disparités inacceptables ne peuvent qu'ébranler la cohésion du tissu social. La nécessaire cohésion sociale, une meilleure gouvernance de l'activité microéconomique et de la concurrence, la gestion du principe de précaution et des risques, autres risques collectifs demeurent les grands chantiers pour l'État à l'échelle nationale, voire régionale. Et dans ce cadre-là, il est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de la nécessaire cohérence des politiques économiques et sociales. Le défi lancé à l'État est non seulement d'ordre éthique, mais aussi opérationnel. L'idée qu'ils puissent et doivent promouvoir la modernisation économique par le biais d'industries aux mains du secteur public a disparu en même temps que la guerre froide. Une telle stratégie a perdu sa crédibilité en raison des coûts excessifs qu'elle a souvent entraînés en matière fiscale. L'État doit aujourd'hui agir sur l'économie par d'autres moyens que la gestion directe des entreprises. Il doit pour ce faire établir d'emblée une cohérence entre ces diverses politiques, qu'elles soient monétaires, budgétaires ou sociales. La réalisation d'investissements importants dans les ressources humaines, dans l'éducation, la santé sont autant d'objectifs à poursuivre pour assurer à chaque pays un développement durable. Un problème sur lequel l'État doit se pencher a trait à une concentration industrielle qui avance à coups de licenciements. Il ne se passe pas une semaine sans que l'on annonce des fusions et acquisitions de grande envergure. Ce processus de fission et acquisition fait partie de l'évolution naturelle de l'économie, bien entendu. C'est ainsi que le tissu industriel se renouvelle et se diversifie. Toutefois, cette multiplication de fusion-acquisition entraîne d'une part une valorisation des actifs boursiers et des réductions d'emplois importants, d'autre part. On est donc en droit de se demander quelle est la finalité de l'entreprise. Il ne peut certes être question d'aller, pour l'État, d'aller contre les forces du marché en s'opposant systématiquement à chaque nouvelle étape du processus de concentration industrielle. Il est toutefois de son devoir moral et de ses prérogatives politiques d'inciter les entreprises à une plus grande vigilance quant aux implications sociales de leurs activités et de fournir le cadre institutionnel et juridique pour que le domaine social ne fasse pas les frais de la concentration industrielle. La concomitance des fusions-acquisitions avec la hausse des cours boursiers des entreprises concernées, ainsi que des licenciements massifs, nous interpelle tous, et les pouvoirs publics en particulier. Une nouvelle gouvernance de l'activité microéconomique s'impose à l'État pour traiter ces aberrations socio-économiques. L'État doit également œuvrer pour établir les bases d'une réelle concurrence, éviter des abus de position dominante, des mécanismes qui faussent les prix et promouvoir la possibilité pour toutes les entreprises de pénétrer les marchés. Mettre en place une telle concurrence n'est pas chose aisée. Le danger auquel il faut parer dans ce domaine est de voir des anciens monopoles d'État remplacés par de nouveaux monopoles privés. Et ceci a été le cas dans bien des pays d'Afrique notamment. Il faut des règles claires, promouvoir des arbitres impartiaux et surtout, à la base, une préparation et un entraînement pour des acteurs les moins outillés afin de permettre à ces acteurs de participer à une concurrence saine. L'État doit d'autre part prendre en compte l'environnement naturel et la façon dont il conditionne la viabilité du développement. Les catastrophes écologiques ne cessent de se répéter et nous ne saurions les accepter comme une fatalité. Pour cela, l'État doit s'investir pour promouvoir une législation et une réglementation de la protection de l'environnement qui soit à la hauteur de l'enjeu. Il s'agit pour les pouvoirs publics d'assurer une synthèse créatrice entre l'efficacité économique, l'équité sociale et l'équilibre écologique. Qui mieux que l'État, garant du long terme et du bien-être collectif, pourrait assumer cette responsabilité dans les années à venir? En outre, le Forum mondial de l'éducation s'est réuni à Dakar il y a quelques semaines à l'initiative de l'UNESCO. Ce forum s'est penché sur une question brûlante : comment faire accéder le plus grand nombre à l'éducation dans cette société de l'intelligence ? Le savoir est le vecteur le plus puissant de l'intégration dans une société dont l'intensité en connaissance ne cesse de croître. Le savoir pour tous sera long à mettre en place. Il est cependant le corollaire indispensable du défi lancé par la nouvelle économie. Voilà une des tâches majeures de l'État au début de ce troisième millénaire. Les télécommunications et l'informatique modifient les concepts même de distance et de temps. C'est pourquoi le problème de l'accès à l'information revêt une importance capitale. La vocation régulatrice de l'État consiste, dans ce cadre-là, à promouvoir l'accès à l'information, à la technique et à la science comme facteur de développement humain plutôt que comme force d'oppression et de domination. Quid de la dimension internationale de l'enjeu? Quelle régulation planétaire pour le troisième millénaire? Dans tous les secteurs que nous venons d'analyser, il existe, on l'a senti, un manque, une attente auquel l'État peut contribuer à promouvoir un début de réponse. Il est toutefois certain que tous ces problèmes ont atteint une dimension mondiale avec des implications au niveau planétaire. L'interdépendance entre les nations se voit de ce fait considérablement accrue. L'action de l'État serait donc vouée à l'échec si elle se cantonnait dans les limites des frontières nationales, voire régionales. Les exigences actuelles interpellent les États dans leur ensemble afin qu'ils puissent établir les bases d'une action efficace et global, plutôt que simplement international. Les grands chantiers dans ce domaine ont trait à la réforme de l'architecture financière internationale pour prévenir les crises systémiques, au rééquilibrage du système commercial multilatéral, la responsabilité sociale des entreprises et la gestion de la nouvelle génération de risques collectifs qui sont de nature écologique, alimentaire et technologique. La réforme de l'architecture financière, s'il est une réforme importante à accomplir, c'est celle de cette architecture, notamment pour faire face aux crises systémiques à répétition qui se sont manifestées pendant les 15 dernières années. Il est urgent d'œuvrer pour les prévenir ou, à défaut, pouvoir les gérer au mieux. La 10e session de la CNUSED a souligné l'importance de cette réforme, réforme qui devrait en outre inverser l'actuelle tendance à la baisse de l'aide publique au développement et trouver des solutions efficaces et définitives au problème de l'endettement des pays en développement. La réforme de l'architecture financière internationale doit tenir compte de la nécessité de préserver et même de renforcer l'autonomie des pays en développement pour établir un régime de gestion des mouvements de capitaux qui paraît le mieux adapté à leurs conditions et à leurs objectifs. Ces pays ne doivent pas être soumis à des accords internationaux trop contraignants sur la liberté des mouvements de capitaux ou sur le commerce des services financiers. La réforme devrait également rendre possible et même encourager l'introduction de mécanismes régionaux visant à prévenir l'instabilité financière et la propagation des crises par effet de contagion. L'expérience européenne en matière de coopération monétaire et financière, de même que l'ancien système européen des taux de change, le serpent monétaire, mérite d'être étudié dans cette optique. Une coopération monétaire et financière parmi les pays en développement et en transition au niveau régional pourrait comprendre des accords sur les taux de change, la coordination des politiques macroéconomiques, l'adoption de règles communes concernant les mouvements de capitaux et des mécanismes régionaux visant à la création et à la stabilisation de la liquidité internationale. Dans le domaine du système commercial multilatéral, il est fondé sur des règles et est supposé atténuer le rôle des pouvoirs économiques et politiques dans les relations commerciales entre les éléments constitutifs du système que sont les États membres de l'Organisation mondiale du commerce. Les règles elles-mêmes, les thèmes choisis pour la négociation et les modalités asymétriques de libéralisation continuent de refléter le pouvoir relatif des membres de l'OMC. À titre d'illustration, l'accord sur les subventions stipule un haut degré de flexibilité pour les gouvernements concernant les subventions en matière de recherche et développement et de technologie. Cela permet aux pays qui en ont les moyens de renforcer à travers les subventions leur compétitivité internationale pour les exportations qui dépendent de l'avantage technologique et de la connaissance. Une illustration, l'accord sur les nouvelles technologies de l'OMC a été l'un des accords les plus rapides à négocier. Comme nous l'avons déjà souligné, les produits d'intérêt à l'exportation pour les pays en développement sont moins bien traités par le système commercial multilatéral, notamment les matières premières, fibres et aliments et leurs dérivés transformés, y compris les produits tropicaux, café et cacao, qui continuent de se heurter à des barrières commerciales élevées dans les pays industriels. Les textiles et l'habillement, j'en ai parlé, sont sujets à des droits de douane élevés. Le report jusqu'à l'an 2005 du démantèlement des restrictions quantitatives auxquelles sont sujettes les exportations de textiles et d'habillement représente une charge qui inhibe sérieusement le potentiel d'exportation des pays en développement. En fait, nous avons constaté que depuis le milieu de la décennie 80, les pays en développement ont entrepris une libéralisation commerciale rapide et soutenue. Cet état de choses a découlé non seulement des négociations commerciales multilatérales au sein du GATT et de l'OMC, mais aussi des conditionnalités inhérentes aux programmes d'ajustement structurel et de stabilisation qui ont été mises en œuvre par les institutions de Bretton Woods. Le résultat prévisible de cet état de choses a été l'asymétrie croissante entre le Nord et le Sud dans le rythme de la libéralisation commerciale. Il est par exemple frappant de constater que les exportations des 48 pays les moins avancés ne représentent que 0,25% du commerce mondial, ce qui peut difficilement constituer une menace pour les économies les plus puissantes du monde. À titre d'illustration, et selon le directeur actuel de l'OMC, je le cite, « C'est triste à dire, les droits de douane moyens appliqués par les pays riches aux produits des pays les plus pauvres sont en fait plus lourds que ceux qu'ils perçoivent sur les produits d'autres pays riches. » Aux États-Unis et au Canada, par exemple, ces droits de douane sont même environ deux fois plus élevés. Il s'agit là d'un problème moral autant qu'économique. Fin de citation. Il y a donc lieu d'envisager un traitement sérieux de ces déséquilibres dans le système commercial multilatéral, en insistant notamment sur la mise en œuvre complète des résultats des cycles d'Uruguay et de Tokyo, qui sont communément appelés l'ordre du jour non épuisé. L'un des enjeux les plus importants consiste donc à injecter une véritable dimension développement mais aussi équité dans toute négociation commerciale multilatérale. Ce survol a permis de révéler la panoplie de défis systémiques à surmonter et la dynamique régulatrice nouvelle qui s'impose pour y parvenir relève de la compétence souveraine des États. Cette dernière devrait agir de concert avec la société civile et les événements de Seattle ont révélé justement à quel point les États sont interpellés dans leur volonté régulatrice en matière de commerce international. Le deuxième enjeu international concerne la gestion de la transnationalisation des entreprises. Le renforcement de la transnationalisation de l'activité des entreprises a coïncidé avec l'éclosion d'une opinion publique globale, quasi planétaire, dont le vecteur principal a été l'explosion des technologies de l'information et de la communication. La concomitance de ces deux phénomènes a entraîné une prise de conscience graduelle quant à la responsabilité des grandes sociétés multinationales dans plusieurs domaines dont la portée sociétale actuelle n'est point à démontrer. Il s'agit des conditions sociales, notamment de travail, de l'environnement, des droits de l'homme et de la sécurité alimentaire, en particulier des organismes génétiquement modifiés. Le rôle que joue la société civile et ses groupes de pression dans cette nouvelle prise de conscience est loin d'être négligeable. Il convient également de tenir compte du fait que les domaines où cette prise de conscience se fait sentir correspondent aux sujets d'activités bien définis d'organisations en place dans le système des Nations Unies. L'existence de ces instances a rendu possible un débat au niveau international sur les effets des pratiques des entreprises sur les aspects que nous venons justement de mentionner. Toutefois, beaucoup reste à faire car plusieurs entreprises multinationales ont maîtrisé la rhétorique socialement ou écologiquement responsable sans pour autant prendre des mesures complètes, notamment sous forme de code de conduite. Des mécanismes de surveillance devront être mis en place afin de pouvoir passer en revue, évaluer et améliorer la prise en charge par les grandes sociétés multinationales de leurs responsabilités dans divers domaines pertinents. Il est également nécessaire de parvenir à une prise de conscience des effets, bons ou mauvais, des activités des entreprises sur le développement du tiers-monde. Le fait que la plupart des grands conflits qui secouent le continent africain en ce moment se déroule dans des zones minières connues, ne relève apparemment pas de la coïncidence fortuite. Une prise de conscience des multinationales à cet égard se voit justifiée pour une double raison. Primo, pour éviter que des mesures d'amélioration en matière de conditions de travail, d'environnement, de droits de l'homme puissent aller au détriment des objectifs de développement des pays du tiers-monde, et secondo, pour donner à l'objectif du développement toute la place qui lui revient dans les activités des entreprises multinationales. C'est pour cette raison que des mécanismes internationaux de surveillance seront également nécessaires dans ce domaine. Et les acteurs clés d'une telle démarche sont les États. Les exigences croissantes en matière de cohérence éthique vont peser considérablement sur le potentiel régulateur des pouvoirs publics qui seront sollicités par les ONG, les syndicats et les associations de consommateurs pour exercer leur responsabilité de garant de la régulation nationale mais aussi globale. D'aucuns pourraient envisager la mise sur pied d'un véritable observateur de la transnationalisation des entreprises afin d'assumer ses diverses responsabilités. Une nouvelle série de problèmes qui interpellent l'État est en train de voir le jour, constituant ainsi le grand chantier de la prochaine génération régulatrice. Les éléments constitutifs de cette nouvelle génération régulatrice ont trait à une meilleure prise en charge de la sécurité alimentaire, au nord comme au sud, à la promotion d'une adéquation dynamique entre progrès technologique, scientifique d'une part et les considérations éthiques d'autre part, et enfin à une gestion effective de la co-responsabilité entre l'État et les nouveaux acteurs de la société civile, du secteur privé, pour affronter les nouveaux défis inhérents à la réduction des inégalités. Il s'agit de promouvoir graduellement une convergence créatrice entre les mains invisibles des gouvernements pour bâtir un monde plus équilibré, parce que plus équitable et plus soucieux des impératifs du long terme. Cette vision est fondée sur une conviction forte. Les marchés livrés à eux-mêmes ne sauraient imaginer ou créer une société décente pour tous. En guise de conclusion, je voudrais faire part de ma conviction quant à la nécessité d'un plus grand devoir de solidarité, aussi bien à l'intérieur des pays qu'entre les nations et les continents. Parmi les problèmes contemporains auxquels nous sommes confrontés figure la pauvreté extrême, l'inégalité croissante à l'intérieur des pays et entre eux, la vulnérabilité des marginaux, la dégradation de l'environnement et la précarité érigée en système de gestion dans certaines sphères de la société. La plupart de ces problèmes sont, pour l'essentiel, en interaction avec la façon dont l'économie est actuellement structurée, et ils semblent avoir été aggravés par la globalisation. L'exacerbation de la concurrence découlant de cette globalisation et de la libéralisation a renforcé ces phénomènes déstructurants. Le démantèlement des barrières de tout type a provoqué celui des anciens modes de protection, soumettant ainsi de plus en plus de secteurs à la concurrence. La célérité des mouvements de capitaux, les flux de biens et services, a ôté du sens économique aux frontières nationales. Ce phénomène a renforcé le poids du capital par rapport à la main-d'œuvre, laquelle n'a pas joui, comme vous le constaterez, du même degré de mobilité ou de libéralisation. En d'autres termes, la globalisation sans conscience et sans responsabilité a eu tendance à détruire l'interaction des facteurs de production pour lui substituer la primauté des intérêts des propriétaires et des actionnaires. Cette dynamique est bien entendu justifiée par ses promoteurs pour des impératifs d'efficacité et de concurrence, mais elle n'en est pas moins source d'instabilité et de malaise social. L'acuité avec laquelle se manifeste l'exclusion au sein des nations et la marginalisation de continents entiers comme l'Afrique nous interpelle tous. Les États, garants de l'équilibre planétaire, peuvent-ils continuer à promouvoir la concurrence sans s'assurer que des opportunités égales pour tous existent à l'échelle nationale et internationale? Le temps n'est-il pas venu de promouvoir un New Deal planétaire ou une discrimination positive en faveur des plus faibles? Qui mieux que les États pourrait envisager une telle initiative? Ces dernières années, nous avons assisté à une abdication relative et progressive, mais réelle, du devoir de solidarité des États, à telle enseigne que celui-ci a dû être pris en charge, avec d'inévitables limites, bien entendu, par la société civile. Ce déficit de solidarité internationale a entraîné, entre autres, une réduction substantielle de l'aide publique au développement, comme je l'ai mentionné. Aujourd'hui, je voudrais insister sur la nécessité et l'urgence de bâtir une communauté globale qui respectera les aspirations de tous ses membres en vue d'un développement profitable à tous. Ce devoir de solidarité est dicté par notre responsabilité vis-à-vis de l'environnement mondial, des droits de l'homme, ainsi que vis-à-vis de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. La prochaine conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés aura lieu en mai 2001 à Bruxelles sous l'égide de la CNUSED, et cette conférence offre justement aux États une occasion de mettre à jour le concept de solidarité globale. Ils devront prendre des engagements concrets dans les domaines du financement du développement, l'accès au marché, la réduction de la dette et la promotion des investissements en faveur des 48 pays les plus vulnérables de la planète. Cette notion de solidarité n'est cependant pas seulement un pur engagement de nature éthique en faveur des faibles et des personnes vulnérables. Elle se justifie aussi sur un plan économique, car elle va dans le sens de l'intérêt collectif. L'idée fondamentale consiste à nouveau à promouvoir une réciprocité généralisée, une interdépendance assumée, terme qu'à la CNUSED nous n'émettons jamais d'associer à celui de mondialisation. Face à cette mondialisation et aux enjeux de taille qui en découlent, économiques, écologiques, politiques, sociaux et humains, l'État a le devoir moral de s'engager activement. Il est indispensable qu'il se ressaisisse, qu'il assume non seulement son rôle de régulateur, mais aussi qu'il considère cet engagement comme le défi futur majeur. Vous constaterez que cet exposé a été émaillé d'un grand souci d'équité, d'une grande vision, je dirais, internationaliste, et cela n'est guère surprenant, étant donné que j'appartiens à l'Organisation des Nations Unies qui a vocation de promouvoir le développement des pays en développement. Je vous remercie de votre attention.
Oui, bonjour monsieur, je vous remercie de votre exposé. Je voulais savoir ce que vous répondez aux personnes qui, quand on leur dit que vous avez prononcé, vous avez évoqué le concept de droit de l'homme, que répondez-vous aux personnes des nations, des pays ou des États qui contestent la notion de droit de l'homme comme comme procédant du néocolonialisme occidental? Que répondez-vous dans ce cas-là?
Je répondrai que les droits de l'homme sont une notion universelle. Je pense qu'il s'agit des droits fondamentaux qui n'ont aucune coloration raciale, je dirais aucune coloration culturelle, aucune coloration, je dirais, géographique. Il s'agit des droits fondamentaux et la pratique des États en la matière peut-être varier en fonction du degré de développement économique et social, mais ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'une notion universelle. Et à cet égard, j'aimerais attirer l'attention des participants à cette discussion sur une notion qui me tient à cœur. C'est celle qui a trait au lien assez étroit entre le niveau de développement économique et social atteint par les pays et le degré de promotion des droits de l'homme individuels dans ces pays-là. Les pays les plus développés sont en train de sensibiliser les pays les plus pauvres à la nécessité de respecter les droits de l'homme, de les promouvoir dans leurs frontières nationales. Je crois qu'il y a un devoir de solidarité dont j'ai parlé il y a quelques instants. Ce devoir de solidarité implique que l'on donne à ces pays les plus pauvres les moyens, justement, du progrès économique et social afin que les droits de l'homme puissent s'y épanouir dans des conditions aussi satisfaisantes que possible. L'un des grands dangers auxquels ces pays sont confrontés, justement les plus pauvres notamment, c'est celui des tensions qui peuvent exister entre les droits de l'homme et le degré de misère, de pauvreté et de sous-développement auxquels ils sont soumis. Ces tensions sont réelles. Il s'agit de faire en sorte que ces pays puissent aborder de façon, je dirais, concomitante la promotion des droits de l'homme et assurer à leur population les conditions minimales d'un progrès économique et social. Voilà ce que j'avais à répondre sur cette question.
Monsieur. Bonjour, monsieur. Ce que vous avez dit recoupe parfaitement ce que nous avons déjà entendu lors d'autres conférences. Je voulais vous demander si il ne faut pas considérer le rapport de force avant tout. Bon, sans être enfant de cœur, il faut bien voir que tout doit être analysé en fonction des rapports de force. Or, les rapports de force, est-ce que les pays en voie de développement s'unissent ou non entre eux ? Parce que s'ils s'unissaient, ils l'ont montré quelquefois dans le passé, lors de la crise pétrolière, s'ils s'unissaient dans le passé, ils représentent vraiment une force considérable. Il ne semble pas qu'ils s'unissent tellement. Or, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils devraient revoir cette union de façon à contrebalancer la force que constituent en particulier les multinationales ? Vous avez parlé évidemment de l'État, mais en fait ce sont des États, et donc ces États doivent s'unir. Je vous demande s'ils peuvent le faire dans votre analyse, et en particulier si vous êtes optimiste ou pessimiste plutôt en rapport avec cette union possible.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous que les pays du Sud devraient s'unir pour peser davantage, je dirais, sur le processus décisionnel à l'échelle planétaire. Ceci a été d'ailleurs l'une des vocations originelles de la CNUSED, l'organisation à laquelle j'appartiens. Vous vous souviendrez que récemment, il y a quelques semaines, a eu lieu à La Havane, à Cuba, un sommet des pays membres du groupe des 77. Ce sommet a été l'occasion pour ces pays de réaffirmer non seulement leur solidarité, mais aussi leur volonté politique de peser davantage sur les grandes décisions concernant la gestion de l'économie mondiale, notamment celles qui sont prises dans le cadre des réunions du G7. Ce qui est certain, c'est que ces pays avaient, il y a plus de, disons, 20 ans, 30 ans même, lorsqu'ils avaient lancé des négociations globales Nord-Sud, vous vous souviendrez, destinées à promouvoir ce qu'ils avaient appelé à l'époque un nouvel ordre économique international, ils avaient fait preuve d'un grand esprit de solidarité. C'est celui, d'ailleurs, cet esprit qui a donné naissance à l'OPEP et qui a permis la multiplication du prix du pétrole par 4, vous vous souviendrez. Et ce processus a été, disons, sapé par le développement, la prééminence de l'approche néolibérale qui, comme vous souviendrez, a démarré avec l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et de Ronald Reagan aux États-Unis. Et vous constaterez aussi que ce phénomène néolibéral a entraîné un amoindrissement de la solidarité entre les pays pauvres. Il a entraîné un ralentissement, voire une crise de toute tentative de négociation pour promouvoir un nouvel ordre économique international tel qu'il était inspiré par les pays en développement. Il a aussi entraîné une diminution sensible de la capacité des États dans les pays en développement de peser davantage non seulement sur leur destin national, mais aussi sur le cours des choses à l'échelle globale. Vous vous souviendrez que le lancement des programmes d'ajustement structurel, les programmes de réforme dans la plupart de ces pays en développement ont eu pour effet d'amoindrir le rôle de l'État. Et ce rôle amoindri de l'État n'a pas été un facteur positif dans le développement de cet esprit de solidarité dont vous avez parlé. Je crois qu'il y a une prise de conscience qui se fait jour actuellement, et j'ai le sentiment que la mondialisation a eu pour effet de menacer l'État dans ses attributs souvent les plus élémentaires, notamment dans les pays en développement, et ce processus a entraîné une prise de conscience des élites politiques de ces pays qui sont en train en ce moment de réfléchir à la façon de procéder pour retrouver une voie dans la gestion des affaires du monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce dernier sommet dont j'ai parlé, qui a eu lieu à La Havane, a mandaté 3 chefs d'État d'Afrique, d'Amérique et d'Asie pour se rendre au prochain sommet du G7 qui aura lieu au Japon, afin de présenter ce que je pourrais appeler un cahier de doléances destiné à peser davantage sur le processus décisionnel à l'échelle planétaire. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet.
Madame, mademoiselle.
Vous avez parlé tout à l'heure d'un New Deal planétaire. J'aurais aimé savoir, d'après vous, qui et comment pourrait-on mettre en place ce New Deal planétaire, sachant que déjà les grands États ne payent pas leurs cotisations aux organisations internationales, pouvant déjà avoir des effets sur les différents problèmes mondiaux.
Je crois que quand vous dites les grands États, je pense qu'on peut dire seulement un, et c'est peut-être le plus grand. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que le New Deal planétaire, vous savez, nous sommes dans une... J'ai parlé de l'interdépendance croissante, j'ai parlé de la mondialisation, et quand on examine ce que je considère comme des poches potentielles de croissance, ou disons-le en d'autres termes, des marchés nouveaux, des nouveaux marchés potentiels, on se rend compte que les pays du Nord, les pays industriels, ont atteint un degré de maturité économique, technologique, tel qu'ils sont en situation de concurrence entre eux. Et cette concurrence se développe sur d'autres espaces, dans des pays en développement. Alors, l'équation est simple. Si l'économie mondiale doit continuer de croître, elle a besoin de marchés nouveaux. Et je crois que ces marchés nouveaux ne peuvent exister que dans des zones qui, jusqu'à présent, ont été épargnées par l'expansion mondiale. Le processus d'expansion mondiale aura donc besoin de marchés nouveaux, et ces marchés nouveaux existent justement dans les pays en développement. L'Asie du Sud-Est a connu une crise grave il y a quelques années, et l'on a vu les conséquences de cette crise sur l'expansion économique mondiale. Et je crois que si on arrivait à lancer des programmes globaux pour mettre en valeur les parties de ce globe qui n'ont pas connu cette expansion mondiale, c'est toute l'économie qui va en profiter, et cela va se manifester par des points supplémentaires dans les chiffres de croissance économique de l'économie mondiale. C'est pour cette raison que j'ai parlé du New Deal planétaire. Le concept même du New Deal, comme vous le savez, lancé tel qu'il a été par le président Roosevelt aux États-Unis, était d'essence fondamentalement keynésienne. Il s'agissait d'injecter de l'argent dans le système. Et cela a bien marché aux États-Unis. Et je crois que si l'on arrivait à adopter une telle démarche à l'échelle planétaire, il ne s'agit pas de le faire dans beaucoup trop de pays, il s'agit d'à peu près des pays d'Afrique, des pays les moins avancés, dans certaines parties du continent sud-américain. Je crois que cela ne peut avoir qu'un effet positif sur l'économie mondiale.
Monsieur.
Oui, bonjour monsieur. J'ai beaucoup apprécié l'importance que vous voulez donner à l'État. J'ai deux observations. Premièrement, avant, j'allais dire, la mondialisation globale telle qu'elle s'est généralisée, beaucoup de pays en développement avaient les uns réussi dans leur politique de développement, d'autres n'avaient pas réussi, et ça dépendait de leur politique, j'allais dire, s'ils avaient réussi à faire naître les conditions de développement de politique. Ceux qui avaient réussi avaient d'une part protégé leur marché, tout en exportant, et avaient réussi à faire naître des entreprises importantes qui pouvaient se placer sur un plan mondial. Ce que j'aurais voulu que vous nous précisiez, c'est ma deuxième question, ou peut-être ma première question, l'autre était une remarque, c'est de quelle façon, dans le cadre de la mondialisation actuelle, l'État doit jouer un rôle vis-à-vis des entreprises nationales qui, je crois, pour pouvoir faire entraîner l'économie nationale dans un développement qui soit géré, j'allais dire, ou pour lequel les États puissent, j'allais dire, avoir leur mot à dire et non pas se faire recoloniser, quelles seraient les suggestions que vous auriez à faire pour pouvoir, j'allais dire, soutenir et encourager les entreprises nationales dans les pays en voie de développement?
Merci beaucoup. Je crois que il y a un point important à souligner. L'Asie du Sud-Est, on a parlé des dragons, on a parlé de miracles asiatiques, des pays comme la Corée du Sud, Singapour, etc. Nous avons entrepris un travail d'analyse à la CNUSED pour justement appréhender les ressorts de ce miracle économique. les facteurs sous-jacents, les raisons pour lesquelles ces pays ont connu cette croissance très rapide en si peu de temps. Alors, nous avons abouti à des conclusions fort intéressantes. La première, c'est que l'État a joué un rôle, celui du chef d'orchestre. Il a réparti les subventions, il a procédé à une protection sélective des secteurs en fonction de sa stratégie d'exportation, de sa stratégie de substitution aux importations. Il a procédé à un travail, je dirais, d'intelligence économique, entre guillemets, pour mettre à la disposition des entreprises nationales des informations économiques, technologiques, stratégiques. Il a aussi organisé des mesures d'accompagnement pour justement promouvoir les exportations et la pénétration des marchés. Il a enfin participé à un processus multilatéral au sein du GATT notamment pour obtenir des avantages commerciaux, notamment la mise en œuvre d'un système qui a été négocié au sein de la CNUSED et intégré plus tard dans le GATT, le système des préférences généralisées qui a consacré la non-réciprocité entre les pays riches et les pays pauvres en matière de concessions commerciales multilatérales. L'État a donc joué dans ces pays d'Asie du Sud-Est le rôle de chef d'orchestre, et ce de façon, je dirais, stratégique et tout à fait réussie. Alors, quid de la situation actuelle ? Les pays qui n'ont pas participé à ce miracle, ceux du tiers-monde, je veux dire, les pays qui ont accusé un certain retard par rapport à ceux d'Asie du Sud-Est, se trouvent confrontés à une situation beaucoup plus complexe de nos jours, pour une raison très simple. C'est que la libéralisation commerciale a poursuivi son cours. Il est de plus en plus difficile de procéder à des subventions pour soutenir les entreprises nationales dans les pays en développement. Il est de plus en plus difficile aux États qui sont confrontés à des difficultés budgétaires d'organiser des mesures d'accompagnement pour structurer cette stratégie de pénétration de marché à l'exportation. Il est de plus en plus difficile aux États qui se heurtent à des difficultés budgétaires d'organiser une activité d'intelligence économique au profit de leurs entreprises. Et enfin, il leur est de plus en plus difficile d'organiser, de mettre sur pied un système éducatif qui puisse justement fournir la main-d'œuvre qualifiée qui devrait permettre d'étoffer le potentiel compétitif de ces entreprises nationales. La tâche est donc plus complexe. La tâche est plus complexe pour des raisons liées à l'environnement économique international. Elle est aussi plus complexe parce que les États, dans leurs frontières nationales, disposent de moins en moins de moyens. Alors la question est de savoir que peut-on faire dans le contexte actuel pour justement promouvoir des stratégies de développement des entreprises. Nous avons réfléchi à cette question à la CNUSED. Nous avons abouti à une série de conclusions. La première consiste à organiser un partenariat stratégique entre des entreprises des pays en développement. Monsieur a parlé tantôt de solidarité, d'union entre ces pays. Nous avons constaté, et je me réfère encore à l'Asie du Sud-Est, que cette forme de partenariat stratégique entre entreprises du Sud peut aboutir à des résultats très impressionnants. C'est le cas, par exemple, pour la production de certains composants électroniques à travers des alliances entre des entreprises de Malaisie, de Corée du Sud, Singapour, etc. Cette stratégie est en train de se développer entre des entreprises d'Asie du Sud-Est et celles d'Amérique latine, notamment du Chili et du Brésil. Je pense que ceci représente un mode d'opération qui peut aboutir à des résultats satisfaisants. Le deuxième plan concerne une vision stratégique en matière d'accueil des investissements étrangers. Lorsque les entreprises multinationales s'implantent dans ces pays, nous avons estimé à la CNUSED qu'elles devraient obéir à un certain nombre de cahiers des charges qui stipulent des critères d'impact sur le développement du pays d'accueil, des critères de formation de la main-d'œuvre, des critères de participation à la recherche-développement au plan local, national, et des critères de compétitivité en termes de réunion, de satisfaction d'un certain nombre de critères à l'exportation, etc. Toutes choses qui ont pour effet de permettre au tissu industriel national de bénéficier davantage des effets d'entraînement de ces investissements directs dans ces pays. Voilà quelques pistes qui permettraient peut-être d'aboutir à des résultats satisfaisants sans pour autant atteindre les degrés de performance qu'on a connus avec les pays d'Asie du Sud-Est avant que le processus de libéralisation ait atteint le degré qu'il connaît aujourd'hui.
On va prendre encore 4 questions, il y en a beaucoup, mais on va s'en tenir là. Alors, mademoiselle, vous,
Je désirais que vous nous parliez de la dette qui paralyse l'économie des pays en voie de développement, des possibilités de l'annulation. Est-ce que ça ne serait pas le premier pas vers une solidarité Nord-Sud?
Tout à fait. Je crois que lorsqu'on réfléchit au problème de la dette, l'on est impressionné par la lenteur du processus de réduction, d'annulation, parce que figurez-vous qu'un pays comme la Tanzanie consacre 4 fois plus d'argent à rembourser sa dette qu'à soigner sa population, et 6 fois plus à rembourser sa dette qu'à éduquer ses enfants. Ce sont là des chiffres qui ont une portée dramatique, ce sont des chiffres qui nous interpellent tous, à telle enseigne que les milieux des organisations non gouvernementales et je dirais même certains milieux religieux, vous avez entendu parler du Jubilé 2000, se sont saisis du problème de la dette. Alors, il faut l'aborder sous plusieurs angles. Il y a la dette bilatérale, d'État à État, il y a la dette commerciale, vis-à-vis des banques, des institutions privées, et il y a en fait la dette multilatérale vis-à-vis des institutions multilatérales de financement de développement comme le FMI, la Banque mondiale ou la Banque européenne d'investissement, etc. Il s'agit de 3 types de dettes. Il y en a qui se prêtent à des opérations plus aisées que d'autres. La CNUSED a été la première, il y a plusieurs décennies, à proposer qu'on annule la dette publique. Et je crois que les efforts qui ont été faits dans ce domaine sont pas négligeables, tout en n'étant pas entièrement satisfaisants. Le deuxième domaine concerne la dette commerciale. Nous avons proposé aussi qu'elle soit sujette à un réaménagement. Et lorsque nous l'avons fait, on nous avait dit « Non, mais ce n'est pas sérieux, il s'agit de contrats de droit privé, on ne peut pas envisager. » Et pourtant, à la faveur de la crise mexicaine de 1984, cette pratique est entrée dans les mœurs. Alors, le troisième type de dette, la dette multilatérale, vous avez tous entendu parler de l'initiative PPTE, dans le jargon anglais, ils l'appellent HIPIC. Il s'agit de la dette des pays pauvres très endettés. Et cette dette existe vis-à-vis des institutions multilatérales, FMI, Banque mondiale. On avait pensé aussi que pour des raisons juridiques, on ne pouvait pas la réaménager. Et maintenant, on est en train de le faire. Seulement, on le fait de façon trop lente et la portion de la dette qui est couverte est trop limitée. Et enfin, les conditions d'application, les conditionnalités qui sont imposées aux pays pour bénéficier de ce programme d'allègement sont trop strictes. Nous, à la CNUSED, nous pensons que l'un des grands impératifs en matière de solidarité Nord-Sud de nos jours, c'est celui de la réduction de la dette. Et je pense qu'il faut que l'opinion publique soit consciente de cette donnée. Aussi longtemps qu'on n'annulera pas la dette, notamment des pays les plus pauvres, il est difficile de considérer qu'on a à cœur les objectifs de développement de ces pays, car ces pays ne pourront jamais décoller économiquement avec ces niveaux de dette qu'ils ont actuellement. Oh.
Monsieur, madame et monsieur.
Oui, bonjour monsieur, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut absolument aider les plus pauvres et il y a l'aspect financier qui est le plus important, malheureusement. Et à ce propos, je pense à une chose, il y avait eu une idée un jour, c'était dans les années 80, d'une délocalisation du FMI. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau du FMI? Les Américains qui ont le maximum, un max de dettes vis-à-vis du FMI et de la Banque mondiale, ont localisé sur leur territoire toutes les banques internationales, et donc ils profitent de l'argent des autres, et c'est comme ça qu'ils arrivent à réussir. Bon, il faudrait donc arriver à délocaliser le FMI. Ça nous permettrait, premier point... l'idéal serait de le délocaliser à Lomé, par exemple. Bon. Attends, et le deuxième point, ça serait bien parce que ça nous permettrait d'arriver à faire que les libertés publiques
dont c'est un rôle de l'État, au niveau national, s'internationalise dans le monde. Ça serait bien d'appliquer dans le monde entier toutes les libertés publiques, dont le droit à la dignité, le droit au travail, à la famille et tout y compris. Merci, monsieur. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Bon, madame, je ne suppose pas que ça...
Excusez-moi, je voudrais vous demander si les conditions de travail dans les pays en voie de développement ne sont pas aussi des arrêts au flux économique. Elles ne sont pas du tout les mêmes dans certains endroits. Il y a l'esclavage, il y a le travail des enfants. Et puis ensuite, je voudrais vous poser une autre question sur la criminalisation financière et économique et la corruption, parce que dans certains pays, la richesse est accaparée par des oligarchies et ça ne fait pas jouer l'économie très bien.
Oui. Et puis, les conditions de travail. Je suis d'avis qu'il s'agit d'un sujet qui mérite une attention soutenue. Toutefois, vous savez, j'ai été confronté à une expérience personnelle lorsque je me suis rendu au Bangladesh, dans un village, et j'avais posé la question au chef de famille, pourquoi ces enfants travaillaient alors qu'ils étaient en bas âge. Alors je me suis fait répondre que j'avais le choix entre le voir mourir de faim et choisir de faire travailler ses enfants. C'est une question que je me suis que j'ai considérée comme, je dirais, assez sérieuse. Et l'impression que j'ai, c'est que il faudrait qu'on s'achemine vers une situation où le devoir de solidarité permet d'atténuer, de réduire l'importance de ce phénomène de conditions de travail, de travail des enfants. Je m'explique. Il y a une expérience très intéressante au Brésil qu'on appelle Bolsa Escola, qui permet à des institutions non gouvernementales d'octroyer des sommes à des familles afin que ces familles s'engagent à scolariser leurs enfants et éviter ce faisant de les envoyer travailler. Et ce processus a pris de l'ampleur. On a même commencé à le lier à la réduction de la dette au Brésil. Ce programme est aussi appliqué en ce moment au Mexique. C'est vous dire que le traitement de ces problèmes de travail des enfants doit faire l'objet d'une approche qui tienne compte de la dimension, je dirais, sociale, mais aussi de la dimension économique. Il s'agit de manifestations, en fait, du sous-développement. Et si l'on veut le traiter, il faut que l'on fasse preuve d'une plus grande solidarité internationale. Et je pense que lorsque l'aide publique au développement diminue de 40% pendant les 10 dernières années, il est difficile de concevoir une situation où le travail des enfants va diminuer parallèlement. Donc, il y a un lien assez intime, si je puis dire, entre le devoir de solidarité et le traitement de ces problèmes, de ces dysfonctionnements que représente, par exemple, le travail des enfants. La corruption, je suis d'avis d'accord avec vous. Les inégalités dans ces pays, la mauvaise gestion. Vous savez, j'ai l'impression que les populations de ces pays commencent à peser davantage sur leurs leaders pour exiger plus de transparence dans la gestion de la chose publique. Et je suis assez optimiste parce que la mondialisation, et ça représente un des effets positifs justement de la mondialisation, car les populations de ces pays sont de plus en plus exigeantes vis-à-vis de leurs leaders. Elles ont les moyens de sentir, de voir comment d'autres pays sont gérés, comment d'autres pays, les leaders d'autres pays se comportent et rendent des comptes à leur population. Et je crois que dans ce domaine aussi, il y a un effet de contagion que je considère comme salutaire et qui aura des effets positifs dans les années à venir.
Dernière question, monsieur.
Oui. Ici. Il semble que le problème de la misère soit lié aussi au problème de la mauvaise gouvernance. À partir du moment où on aide un pays où il y a une mauvaise gouvernance, est-ce qu'on ne peut pas être qualifié d'une part de néocolonialiste et d'autre part d'apporter un appui justement à cette mauvaise gouvernance.
Oui, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, vous savez, là, c'est l'Africain qui va répondre. Dans le cadre de notre continent, il existe une variété de situations ou de régimes politiques. Et je crois que les pays du Nord devraient uniformiser, ou en tout cas harmoniser, à défaut d'uniformiser, harmoniser leur attitude, leur comportement, leurs pratiques dans leur rapport avec ces pays pauvres, en vue d'exiger justement un minimum de normes, de transparence, de bonne gouvernance. Et je crois que les efforts qui ont été faits dans ce domaine jusqu'à présent sont plutôt à encourager. Et il y a quelques exceptions qui relèvent, je dirais, de l'aberration. Je ne citerai pas les noms de ces pays, pour des raisons de discrétion évidente, de devoir de réserve du fonctionnaire international que je suis, mais je crois que il y a des aberrations qui finissent par coûter cher, pas seulement aux pays concernés, mais à tout un continent et peut-être même à toute la planète. Il est des pays qui ont été si mal gérés pendant si longtemps qui sont devenus de nos jours des catastrophes nationales, des catastrophes, je dirais, régionales. Et la leçon à tirer de tout cela, c'est qu'il y a une co-responsabilité entre ces pays, les dirigeants de ces pays et leurs partenaires, les bailleurs de fonds internationaux, notamment les pays riches. Il faut qu'il y ait harmonisation des politiques, il faut qu'il y ait exigence de qualité dans la gouvernance pour que justement ces pays aient droit à des régimes qui soient dignes de respect. Parce qu'il n'y a pas deux types de peuples, il n'y a pas deux types de responsabilité collective, il n'y a pas deux types de bonne gouvernance. Il n'y a qu'un seul type, et c'est ce même type qui doit être appliqué partout.